Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, faute d'avoir vu les films que nous souhaitions voir à cause d'attachés de presse aux abonnés absents, nous allons vous proposer une émission pleine de compromis, hein, mais pas forcément les plus mauvais en ce qui me concerne. J'ai vu le dernier film avec Anthony Hopkins, qui lui a valu un Oscar, The Favour, du français Florian Zeller, l'occasion de jouer à un blind test avec la filmographie inégale de l'acteur britannique. Et quand je dis qu'on a fait des compromis, eh bien c'est avec toi, notamment Guillaume, puisque toi, tu vas nous proposer un film qui est sur Netflix.
Oui, alors c'est particulier parce que L'Armée des Morts de Snyder sort sur Netflix uniquement sur Netflix chez nous, mais aux États-Unis, il a droit à une sortie en même temps en salle.
Et quant à toi, Manu, ce sont deux films.
Oui, dont un manga de Détective Conan de Scarlett Bullett et puis Promising Young Woman.
Et c'est avec ce film d'Emerald Fennell que nous commençons entre film noir, comédie romantique et satire horrifique, ai-je lu. Et c'est avec Carey Mulligan.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinérama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Je trouvais qu'on avait des affinités.
Des affinités? Ok. Je fais quoi dans la vie? Pardon, c'était un peu trop dur. Alors, j'ai quel âge? Depuis combien de temps j'habite ici? Qu'est-ce que je fais de mon temps libre? Je m'appelle comment ?
Promising Young Woman s'ouvre par une séquence alléchante qui ne manque ni de drôlerie ni de férocité. Cassie, donc l'héroïne, ça donne un petit jeu punitif envers une gente masculine pas toujours bienveillante. C'est le moins que l'on puisse dire. Une soirée dans une discothèque peut vite prendre une tournure désobligeante si vous avez un peu bu. Certaines filles le savent à leurs dépens. Alors donc Cassie, ivre morte, se fait accoster par un jeune homme poussé par ses potes qui voilà au fond une belle opportunité. Ou plus prosaïquement, il ne veut pas se ridiculiser en présence de ses amis. Il propose en faux gentleman de la ramener chez elle. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle feint d'être saoule pour mieux se venger dans un exercice d'humiliation plus cocasse que trash. Ce point de départ réussi, profitant tout de même un peu de l'air du temps, laisse entrevoir une sorte de rap and revenge moderne et fun, mais le film emprunte rapidement des chemins moins balisés que prévu pour le meilleur, mais aussi pour le moins bon. Le meilleur tient dans son sujet, ou plutôt à la personnalité complexe et torturée de son personnage principal Cassie, génialement interprétée par une Carey Mulligan presque méconnaissable, tout en fêlure et ironie vacharde. Elle porte le film à bout de bras, présente quasiment dans toutes les scènes. Que s'est-il passé pour que cette jeune femme brillante, pleine d'avenir, nourrisse autant de rancœur envers les hommes? Elle a stoppé ses études pour travailler le jour dans un fast-food et mener une double vie dès la nuit tombée. Un lourd secret la ronge et elle est bien décidée à faire payer les coupables.
Tu sais, si je voulais te voir aujourd'hui, c'est pour te parler d'un truc en particulier.
Ah, je me demandais aussi. Tu avais complètement disparu des radars.
Je voulais te dire pourquoi j'avais laissé tomber la fac.
Ah oui, d'accord.
Tu te souviens de ce qui s'est passé?
Ça fait une éternité maintenant.
Je sais, mais tu t'en souviens?
Je sais pas, vaguement, c'est...
Tu y repenses parfois?
Pourquoi j'y repenserais?
T'as raison. Pourquoi? Alors si une amie venait te voir aujourd'hui, chez toi, et te disait qu'elle croyait qu'il lui était arrivé un truc grave, tu sais, la veille au soir...
Ah si!
Un truc grave.
C'était il y a des années.
Tu dirais quoi?
C'est...
Tu dirais quoi?
Ah, oh. Je me sens un peu bizarre.
Tu lèverais les yeux au ciel dans son dos en l'accusant de faire du cinéma?
Attends, pourquoi tu t'en prends à moi? Arrête! Je suis pas la seule qui ait pas cru à son histoire. Quand on a la réputation de coucher à droite à gauche, c'est un peu normal que les gens aient un doute quand tu dis que la soirée a dérapé. Franchement. C'est... crier au loup.
Donc pour toi, elle criait au loup.
Actrice, scénariste, productrice, Emerald Fennell signe son premier long métrage, un véritable cri du cœur au discours féministe radical, martelant efficacement que lorsqu'une fille dit non, bah c'est non, et non, oui, mais, ou non, mais. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, au gré d'une série d'événements souvent drôles. On rit, mais on rit jaune devant les agissements d'une galerie de figures masculines, tous plus détestables les uns que les autres. Alors seuls les repentis ont droit à un minimum de salut. Promising Young Woman développe un militantisme post-MeToo inattaquable, d'autant que le film dégage un humour et une énergie assez revigorante. Il tourne le dos aussi à toute forme de provocation gratuite, ce qui surprend vu le sujet. Mais le traitement très frontal, manque souvent de distanciation, sombre parfois dans un manichéisme un peu pénible. La faute en incombe à une mise en scène fonctionnelle, adoptant l'unique point de vue de son héroïne, sans jamais chercher à sauver les autres personnages cantonnés, alors soit dans le rôle de victime, soit de bourreau. L'ultime pirouette finale, très sombre, mais assez défaitiste en fin de compte, laisse un goût amer dans la bouche par sa fausse radicalité. Donc bilan mitigé, donc pour ce premier long métrage, jamais indigne, souvent lucide, mais qui ne parvient vraiment jamais à transcender son sujet pour devenir un véritable film de cinéma.
Promising Young Woman d'Emerald Fennell est dans les salles depuis le 26 mai. Un film qui est, lui, dispo sur Netflix. On continue à parler des plateformes, pourquoi pas. C'est le dernier Zack Snyder, une histoire de zombies qui attaque Las Vegas.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
C'est du lourd, mon frère. Mais je kiffe.
2021, c'est l'année de la libération par rapport au Covid, mais pas forcément de la fin de l'emprise de Zack Snyder sur le monde du spectacle. Après avoir littéralement hanté, puis pollué toutes les conversations autour du cinéma avec sa version modifiée et augmentée de Justice League, il y a déjà quelques mois, voici qu'il revient une nouvelle fois en terrain connu, celui du film de zombies. Alors enfin, zombie, on ne sait plus trop, parce qu'on n'a quand même jamais vraiment su ce que c'était, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Car oui, rappelez-vous, le film qui lança sa carrière ne fut autre que le remake de Dawn of the Dead de George Romero, cet indéboulonnable classique séminal titré Zombie chez nous. Ce remake avait été étrangement baptisé L'Armée des Morts en France en 2004. Même si ce titre avait d'emblée bien cerné l'aspect très pompier du style naissant de Snyder, il était certain qu'aucun traducteur ni distributeur n'aurait pensé qu'un jour le réalisateur revienne aux affaires avec un film du même genre portant le même nom. Pour peu, on se croirait revenu à la grande époque des titres conflictuels tournant autour du chef-d'œuvre de Romero avec L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci, abusivement titré Zombie 2 en Italie, et toutes les suites illégitimes et productions annexes comme Le Retour des Morts-Vivants pour rendre la chose encore plus confuse. Donc pour l'heure, voici donc Army of the Dead qui débarque sur Netflix et qui nous propulse dans un Las Vegas infesté de non-morts.
Monsieur Ward, ouais, ça vous dirait d'empocher 50 millions de dollars?
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, we met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak.
Army of the Dead ne s'embarrasse pas d'un scénario compliqué ni même abouti. Cette récurrence dans le cinéma de Snyder a sûrement joué dans son succès car cette formule permet aux spectateurs d'avoir directement ce qu'ils veulent en payant. Ça n'a probablement jamais été aussi flagrant qu'avec ce film. Passer une scène d'introduction nous expliquant comment un super zombie s'est échappé du contrôle de l'armée et a infesté une Las Vegas qui va se retrouver scellée pour ensuite être condamnée à être détruite sous peu, l'intrigue et ses tenants et aboutissants sont expédiés en 30 secondes montre en main par le commanditaire de la mission qui va motiver nos personnages à aller tenter de pénétrer dans cette zone interdite pour y récupérer un gros magot avant le bombardement. Sauf que Zack Snyder n'est pas John Carpenter. Ce dernier avait l'habitude de présenter avec une économie de moyens et d'effets remarquables tout ce que le public avait besoin de savoir de l'histoire, de ses personnages et de leur psychologie en quelques plans, deux regards et trois répliques. Snyder, lui, va étaler sur 2h30 des détails inutiles, des dialogues idiots et des pauses chichiteuses. Le rapprochement avec Carpenter n'est pas fortuit, car justement Army of the Dead s'amuse à reprendre plusieurs topoïs de la filmographie du maître. On y retrouve la zone contaminée par l'État, le besoin d'y récupérer un objet d'une très grande valeur, les rebelles sans cause qui vont devoir y aller et vont définir leur humanité par rapport à leur action, c'est New York 97. C'est aussi une relecture un peu à l'envers de Ghost of Mars, comme si, comme d'habitude, Zack Snyder n'avait rien compris au message politique du film d'origine. Il nous avait déjà fait le coup pour le Romero. Alors les fantômes assimilés à ceux des Indiens massacrés dans les heures les plus sombres de l'Ouest de Ghost of Mars sont ici remplacés par les zombies peuplant Las Vegas, dont certains ont désormais des sentiments en plus d'une notion de territorialité. Le problème est, comment avoir de l'empathie pour les zombies ultra hein, de Las Vegas, en sachant que cette population représente probablement ce qu'il y a de plus futile, consumériste et bas du front de l'Occident. Du coup, faire cette analogie sensible avec les natifs d'Amérique est un peu beaucoup hein, stupide, même si le réalisateur se cache derrière l'emploi de l'acteur et cascadeur Richard Cetron, hein, qui incarnait déjà le leader des monstres opprimés dans Ghost of Mars. C'est maigre, mais il y a un tigre et un cheval zombie.
Quand tu penses à tout ce qu'on a fait, à tous les gens qu'on a sauvés, regarde ce que ça nous a rapporté. Alors si pour changer, si juste pour une fois, on faisait un truc rien que pour nous.
Au-delà de tout ça, hein, Army of the Dead était censé être le film du fun, et c'est un peu le film du renoncement. L'histoire conflictuelle entre le personnage de Dave Bautista et sa fille se veut touchante, mais on ne peut s'empêcher de penser à la propre mise en abîme probablement opérée par Snyder, dont la propre fille s'est suicidée il y a quelques années. L'image ressemble à n'importe quelle production fauchée du câble, qui complète le tout avec un étalonnage abusant sur les contrastes. Les couleurs flashy sont bien présentes, mais il n'y a rien de joli ou de joyeux à souligner à l'écran. Tout y paraît plat et uniforme. Et c'est bien là ce qui semble être le pire pour une production estampillée Zack Snyder. Si on n'avait jamais eu la prétention de vouloir trouver un scénario un tant soit peu correct chez lui, on se rattrapait avec quelques plans tape à l'œil et une ou deux séquences entièrement tournées vers le spectaculaire et qui impressionnaient la rétine. Ici, c'est tout le mal du cinéma numérique qui se déroule devant nos yeux. On a majoritairement droit à une succession étouffante de plans américains, y compris pendant les scènes d'action, et dont la seule originalité est de jouer avec le premier plan et l'arrière-plan. Ce qui veut dire que nous avons constamment une zone de flou dans une partie de l'image, et que lorsque la caméra bouge ou tremble, ce qui arrive souvent, on ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe. Dans tous les cas, force est de constater que l'ancienne esthète du blockbuster musclé a quand même sacrément baissé les bras sur l'esthétisme de ses films.
Il y a 200 millions de dollars qui dorment dans une chambre forte sur le strip. Vous aurez une fenêtre de 32 heures pour les récupérer. Trouvez le coffre. Ce devrait être une simple excursion.
Il est encore temps de faire demi-tour.
Au final, si vous n'avez jamais vu l'excellent Land of the Dead de Romero avec des zombies intelligents, ou que vous êtes curieux d'assister à une partie bourrine d'un, deux, trois soleils avec des morts vivants, bon ben, Army of the Dead pourra éventuellement vous distraire sans jamais vous enthousiasmer totalement.
Army of the Dead, donc film de Zack Snyder, qu'on a tous vu autour de cette table. Et ben, on est à peu près tous d'accord. À noter quand même que Dave Bautista, enfin, qui est censé incarner le héros, tout de même, c'est lui qui mène les troupes hein, dans ce Las Vegas infesté. Il a vraiment un jeu
inexistant,
très faible. Très très faible. Et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul. Et sinon, Manu, un peu long.
Oui, puis c'est vraiment ce qu'on appelle la série Z déguisée en blockbuster, en fait. Hein. C'est-à-dire que déployer autant de moyens pour ce qui pourrait être un film sympathique sur 1h12, je dis bien 1h12, bah, ça dure 2h30 quand même. Et ça, c'est vraiment un peu pénible. Et puis c'est assez typique du cinéma américain de divertissement contemporain quand même.
On retourne au cinéma. On est témoin de la pensée erratique d'un vieil homme. C'est dans The Favour de Florian Zeller.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Date de naissance ?
Le vendredi 31 décembre 1937.
Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça ?
Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant.
C'est moi!
Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle.
Non, de quoi est-ce que tu parles, papa?
Alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré.
Je suis là pour t'aider.
Pour m'aider à faire quoi? Tout va très bien, Anne. J'ignore ce qu'elle complote contre moi. Mais elle complote quelque chose, j'en suis certain.
Récompensé pour son scénario et l'interprétation d'Anthony Hopkins aux Oscars, The Favour est un film très attendu en salle. Ça commençait plutôt bien pour Florian Zeller, le dramaturge surtout connu donc pour ses pièces de théâtre et romans, qui réalise ici son premier film en s'emparant eh bien, d'un de ses succès au théâtre, précisément sa septième pièce, Le Père. Un succès international, donc rien d'étonnant qu'en l'adaptant, Florian Zeller ait vu les choses en grand, Le Père devient The Favour, et même en France, hein, et la distribution est 4 étoiles avec Anthony Hopkins qui a bien senti le coup puisqu'il reçoit son deuxième Oscar après celui obtenu pour Le Silence des Agneaux en 1992. Avec The Favour, on suit la trajectoire vacillante et déroutante d'un homme de 81 ans, Anthony, qui perd pied avec la réalité. Alors il n'a ni la notion de l'espace, il croit être chez lui alors qu'il est ailleurs, et n'a plus la notion du temps, sans cesse obnubilé par celui-ci, continuellement obsédé par les montres. Si Anthony Hopkins, qui interprète ce vieillard fragile sur le fil de la démence et de tous les plans, c'est aussi l'histoire de sa fille, Anne, qui accompagne son père sur ce difficile chemin.
Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau ?
Quel tableau ?
Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre ? On me l'a volée.
Personne l'a volée.
Comment ça, personne l'a volée ? Ça fait un moment que ça dure.
C'est moi !
Anne ? Des choses étranges se produisent. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Où est Anne ?
Mais de quoi est-ce que tu parles ?
Mais où est-elle ?
Je suis là.
Ah. Alors on doit reconnaître à Florian Zeller un talent pour l'écriture, on saisit au travers de tous les dialogues et bien tout l'enjeu du film, l'importance des situations et ce qui lie les personnages. Il faut aussi reconnaître qu'il sait parfaitement accorder ce texte au cadre du cinéma. Il y a très peu d'extérieur, mais ce n'est pas pour autant que The Favour est une pièce filmée. C'est un vrai exercice de cinéma qui réduit les espaces et le temps. Il y a finalement très peu de séquences, il y en a peut-être une vingtaine, mais peut-être que j'exagère, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y en a une vingtaine, mais chaque fois bien des éléments sont déplacés. Et si Anthony reste le même, un peu perdu, un peu perplexe, mais parfois aussi autoritaire et buté, les autres personnages changent. Le mari de sa fille prend différents visages et attitudes, l'auxiliaire chargé de prendre soin de lui également, et puis même sa fille, en quelques plans, change de coiffure, de mari, on l'a déjà dit, mais aussi de situation. Elle peut être célibataire et amoureuse, en partance pour la France, ou bien londonienne et en couple depuis 10 ans. À ce petit jeu, le spectateur est aussi perdu que le personnage d'Anthony Hopkins dans les méandres du temps et de l'espace, et le virement entre les différentes séquences est très habile amené par Florian Zeller, qui, sûr de son texte, n'a eu qu'à se concentrer sur la manière de le mettre en scène. Le jeu d'Hopkins, en tout point remarquable, n'est pas tout. Il ne suffit pas à faire de The Favour une réussite. Il faut aussi que la lumière, le décor changeant, la discrétion des mouvements de caméra aident le spectateur à mieux s'imprégner des diverses désorientations du personnage qui perd peu à peu la raison. Alors le montage, là encore, un effet cinématographique, nous aide en cela. Capable de passer de la séduction à la colère, de cracher son venin comme de faire preuve d'empathie. Anthony Hopkins est magistral, voilà, le mot est lancé. Le réalisateur et auteur ne voyait que lui pour faire le film et il ne s'est pas trompé. Le film filant sans pathos, la séquence finale s'engage davantage sur le terrain de l'émotion et des larmes et vient clore un bel exercice, près d'1h40 passé dans une pensée labyrinthique. The Favour de Florian Zeller, donc avec Anthony Hopkins et Olivia Colman qui interprète la fille et qui est aussi un élément important de ce dispositif. Bon, quasiment en huis clos. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de l'acteur britannique Anthony Hopkins.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il ? C'est une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Anthony Hopkins, fils d'un boulanger du sud du Pays de Galles, qui a avec lui eh bien, 2 Oscars. Alors, ce que j'ai lu, c'était assez intéressant. Il y a je vous conseille d'ailleurs de la lire, une interview d'Anthony Hopkins dans Le Monde, datée du 26 mai, où il dit « Si je fixe un chien, il finira par m'attaquer, car il se sentira en danger ». 5 extraits tirés de la filmographie, qui est assez conséquente quand même, de Anthony Hopkins.
Vous croyez avoir été plus malin que lui ?
Ce n'est pas le diable. C'est juste une fille très malade. Elle n'a pas besoin d'un prêtre, elle a besoin d'un psy.
Il vous a encore bien eu, n'est-ce pas ?
Je vous laisse votre boîte à malice.
C'est un imposteur, Michael. C'est un imposteur.
Ça a été trouvé.
Et c'est donc le Rite. Je crois que c'est un Suédois qui a réalisé ça.
Mikael Hafström.
C'est possible, donc.
Film de 2011, librement inspiré du documentaire de Matt Baglio, The Rite, The Making of Modern Exorcist, sur la formation exorciste dispensée par l'Athénée pontificale. Et donc là, c'est l'histoire d'un séminariste sceptique qui assiste à contre-cœur à des cours d'exorcisme au Vatican. Et puis, bien à Rome, il rencontre un prêtre peu ordinaire, le père Lucas. Ce prêtre, c'est Anthony Hopkins. Et celui-ci présente la face obscure de sa foi. 800 000 entrées en France pour ce film, et pour celui-ci, il y en a eu beaucoup plus.
Que fait réellement ce meurtrier que vous recherchez ?
Il tue des femmes ?
Non, ça n'a qu'une incidence. Quelle est sa première motivation ? À quel besoin se sent-il contraint d'obéir ?
La colère ? La société ? Le rejet perpétuel ? Trop de frustration sexuelle ?
Non. La convoitise. Voilà sa vraie nature. Et d'après vous, où commence la convoitise? Cherchons-nous les choses à convoiter? Faites un effort, répondez-moi.
Un dialogue qui m'est toujours resté à l'esprit depuis 1991, c'est trouvé.
C'est Le silence des agneaux de Jonathan Demme.
Et oui, deuxième opus donc d'une tétralogie écrite par Thomas Harris, mettant en scène le personnage fictif d'Hannibal Lecter, ancien éminent psychiatre, psychopathe et cannibale, et puis Clarice Starling, jeune agente analyste du FBI. Et Clarice Starling eh bien, est chargée d'interroger l'ex-psychiatre Hannibal Lecter sur un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill, qui lui sème la terreur dans le Middle West en kidnappant et en assassinant de jeunes femmes. Lecter ne veut qu'au opérer que si, en échange, il a des informations sur la vie privée de Clarice. Le film a remporté les 5 Oscars majeurs en 92, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleur acteur pour Anthony Hopkins, et puis, tant qu'à faire, meilleure actrice pour Jodie Foster. Et point important, Guillaume.
En fait, ce qui est assez amusant, c'est que Anthony Hopkins a eu l'Oscar pour à peine 15 minutes de présence à l'écran. On dirait qu'il bouffe tout le film, littéralement. Mais non, 15 minutes, c'est assez incroyable.
C'est qui bouffe les gens aussi, c'est pour ça.
En tout cas, ça a bien lancé sa carrière, ce film. C'est resté durablement dans les esprits. 3,1 millions d'entrées en France pour Le silence des agneaux. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie d'Anthony Hopkins.
Je sais que ce n'est pas très original. L'amour est passion. Obsession. Sa présence est vitale. Je veux dire... Tombe à la renverse, trouve quelqu'un que tu aimeras à la folie et qui t'aimera de la même manière. Où trouver cet homme, eh bien, laisse de côté ta tête et sois à l'écoute de ton cœur. S'il bat en tout cas, je n'entends rien. La vérité, ma chérie, c'est que sans amour, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Être passé sur cette terre sans connaître l'amour, le vrai, eh bien... C'est être passé à côté de la vie.
Ça a été trouvé.
Et c'est Rencontre avec Joe Black de Martin Brest.
Oui, sorti en 1998 avec Anthony Hopkins. Alors, on entend la voix française d'ailleurs très importante parce que je trouve que bon, elle est très identifiable et puis elle rend quand même honneur, je pense, au jeu d'Anthony Hopkins. Et donc là, il y avait Anthony Hopkins et Brad Pitt. L'histoire, une nuit, le mania William Parrish ressent une violente douleur tandis qu'une voix surgissant des ténèbres lui annonce sa mort prochaine. Là, un inconnu frappe bientôt à sa porte, c'est Brad Pitt, tout en beauté, et lui qui lui annonce sa disparition prochaine. Il personnifie la mort et donc vient passer avec William ses derniers jours pour partager avec lui des expériences humaines. 729 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait.
Vous savez, la cervelle elle-même ne souffre pas, Clarice. Ne vous en faites pas. Par exemple, Paul n'a que faire de ce petit morceau ici qui fait partie du lobe préfrontal censé être le siège des bonnes manières.
Votre profil au poste frontière consiste en 5 signes particuliers. Je vous fais une offre.
Une offre?
Épargnez-le, je vous les révèle.
Quel goût a donc ce mot, Clarice? Une saveur métallique comme quand on suce une pièce rouillée.
Qui est Clarice?
L'agent Starling, Paul. Si vous ne suivez plus la conversation, mieux vaut vous abstenir de l'interrompre.
C'est moi, Paul. C'est moi, Starling.
Et c'est Hannibal de Ridley Scott.
Voilà, j'ai fait le feignant parce que j'ai pris la suite finalement du Silence des agneaux. Film avec Anthony Hopkins, Julianne Moore qui remplace Jodie Foster et puis Ray Liotta qui a le cerveau mal en point. 10 ans après Le silence des agneaux, donc Hannibal Lecter hante toujours Clarice Starling, devenue agent du FBI, cette fois-ci elle est titulaire. Et puis Mason Verger, je pense on dit, seule victime rescapée du docteur cannibale, veut le capturer et le voir souffrir d'une façon inimaginable. 2,5 millions d'entrées en France. Dernier extrait de ce blind test.
Je suis pas sûr de saisir...
Ces salopards ont tué ma femme, Nathan. Aussi sûrement que s'ils lui avaient logé une balle entre les deux yeux. Oui. Qui aurait cru que elle qui était... si courageuse et si combative, n'y résisterait pas, mais... Un tel degré de stupidité est insupportable, même pour une dure à cuire comme elle. Infarctus foudroyant. Boum ! Je l'ai conduite à l'hôpital, mais il était trop tard. Et voilà. Ils voulaient ma peau, mais ils ont eu la sienne. Tout ça au nom du... politiquement correct.
Ça se termine donc par un indice, puisque c'est vraiment le sujet. Accusé d'avoir tenu des propos racistes envers deux étudiants, Coleman Silk, brillant professeur de lettres, démissionne.
À la couleur du mensonge.
Oui, démissionne brutalement de son université.
C'est l'adaptation du roman de Philip Roth.
Oui, Natasha. Et donc après, eh bien, ce professeur mène une guerre contre le politiquement correct. Seulement 320 000 entrées en France pour ce film de 2003, réalisé par Robert Benton. Ainsi s'achève ce blind test consacré à l'acteur britannique Anthony Hopkins. Et puis maintenant, eh bien, on va parler d'un film d'animation. Alors, ce n'est pas le plus gros succès de l'animation qui est Demon Slayer, on en a déjà parlé dans cette émission, mais de Détective Conan. Et c'est toi, Manu, qui nous en parle.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Je m'appelle Shinichi Kudo. J'étais lycéen et détective. Un jour, alors que je me baladais dans un parc d'attractions avec mon ami Ran, j'ai été le témoin d'un étrange trafic orchestré par un homme en noir. Absorbé par la scène qui se déroulait sous mes yeux, je n'ai pas remarqué son complice qui s'approchait de moi par derrière. Cet homme m'a forcé à ingérer une pilule. Et à mon réveil...
J'avais rajeuni d'une dizaine d'années.
Série japonaise créée par Gosho Aoyama, Détective Conan est une véritable institution au Japon avec 99 volumes depuis sa création en 1994, plus de 1000 épisodes pour sa déclinaison télévisée et une vingtaine de longs métrages, alors tous inédits chez nous mais disponibles en DVD chez l'éditeur Kazé. Alors sans parler de produits dérivés et puis aussi des jeux vidéo. Alors Détective Conan The Scarlet Bullet est donc le premier long métrage de la longue saga à bénéficier d'une sortie dans les salles françaises, ce qui devrait ravir le cercle de plus en plus nombreux des amateurs de manga. Alors en revanche, les néophytes, pour qui l'univers fou de Gosho Aoyama est étranger, risque de s'en sentir perdu à la vision d'une œuvre riche et mouvementée qui doit beaucoup à son scénario, alliant adroitement énigmes policières et éléments issus du fantastique et de la science-fiction. Alors l'action se déroule dans un futur proche, le Japon se prépare à accueillir les Jeux sportifs mondiaux, on n'appelle plus ça les Jeux olympiques, à Tokyo. Alors le tout nouveau train à très grande vitesse, hyper linéaire japonaise Bullet, est le premier au monde à opérer dans un tunnel sous vide, bijou de la technologie japonaise capable d'atteindre 1000 km à l'heure. Il sera inauguré à l'ouverture donc de ces jeux mondiaux à Tokyo. Mais un incident va tout bouleverser lors d'une fête organisée pour les sponsors des jeux. Des personnalités médiatiques vont disparaître. Conan enquête et s'engage sur une voie liée au passé, une série de kidnappings qui ont eu lieu aux Jeux Olympiques de Boston 15 ans auparavant. Alors la multitude de personnages clés très furtivement présentés lors du générique, ce qui assimile ce long métrage à une série télé quand même, implique d'entrer une connaissance implicite de l'univers interne de ce film d'animation, alors à des années-lumière de la joliesse des studios Ghibli ou même du raffinement esthétique d'un Satoshi Kon.
J'ai perdu des centimètres, mais pas ma faculté de raisonnement. Aucune affaire ne me résiste. La vérité éclate toujours.
Ultra dynamique, à la lisière de l'hystérie, la mise en scène ne vous laisse pas un instant de répit, compensant une animation parfois figée et des dessins manquants de finesse, notamment ce qui concerne les silhouettes féminines, qui se ressemblent un peu toutes. Elles ont toutes le nez dessiné de la même manière, c'est assez étrange. Alors pour pallier à ces faiblesses esthétiques, le réalisateur ou la réalisatrice, je crois que c'est un ancien réalisateur qui a changé de sexe aujourd'hui. Non, c'est vrai, parce qu'il était sous un nom, sur IMDB, sous le nom d'un réalisateur, et puis... là, c'est marqué, donc c'est Shika Nagaoka. Donc, j'en ai déduit que ça devait être ça, qu'il n'y a pas seulement les frères, les sœurs
Wachowski,
Wachowski à faire ça. Donc, voilà, pour pallier à ses faiblesses, la réalisatrice donc, et son équipe ne lésinent pas sur les effets de montage trépidants et les angles improbables de prise de vue. Alors, pourtant, Détective Conan parvient à maintenir un intérêt constant grâce à un récit plutôt captivant, enchaînant les rebondissements les plus extravagants et à la figure étrange aussi, surtout, de l'enquêteur, le fameux détective Conan Edogawa, un adulte dans un corps d'enfant à la suite d'une expérience scientifique qui a mal tourné. C'est le point de départ de la série. Alors évidemment, pas besoin d'être Sherlock Holmes concernant la provenance de son nom qui évoque à la fois Arthur Conan Doyle et aussi Edogawa Rampo, figure majeure du roman policier japonais. Alors bourré d'idées narratives, Détective Conan ravira les amateurs de la série d'origine. Les autres peuvent se laisser tenter à condition de ne pas être rebutés par un graphisme agressif et un montage toujours en sur-régime. Alors attention, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez aussi sortir de la salle un peu, je dirais, épuisé. Et je me faisais cette réflexion que ce n'était pas non plus, que ce n'était pas un dessin animé japonais pour toi, en fait. voilà.
Moi, je vais rester avec Miyazaki.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, même si on parlera de Romero, on ne parlera pas de zombies avec toi.
Et non, plutôt Maison de retraite avec Amusement Park, un film institutionnel qui était perdu et qui a été retrouvé par chance, voilà, grâce notamment à la femme du réalisateur.